Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Notre Bible dans l'évangile de Luc, un passage très court, très simple. Chapitre 6 est simplement une partie de ce récit, enfin ce texte, au verset 13. Nous allons donner un complément à ce que nous avons vu précédemment. Alors, c'est Jésus qui instruit, qui parle et qui nous dit ceci. Donc Luc 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Si vous voulez, eh bien, on peut traduire, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu puis le diable. Et puis, bien sûr, personnifié à travers les richesses, toutes sortes de choses semblables. Donc voilà, les questions se posent ainsi. Et pour nous ramener finalement à ce que la Bible nous préconise, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'ambivalence. Voilà, on est d'un côté ou on est d'un autre. On est dans un camp ou on est dans l'autre. Et il ne peut pas y avoir de position de neutralité en disant « moi je suis ceci, je suis cela ». C'est pas possible, c'est une incohérence, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. On prend position pour Dieu ou alors on contre Dieu. Si on n'a pas pris position pour lui, c'est qu'on est contre. Oui, parce qu'il n'y a pas choix. Hein? Et je crois que tout cela est quelque chose de très clair. Alors nous allons le voir à travers différents personnages. Et puis je voudrais vous poser une question d'ici quelques instants. Alors écoutez bien. Caïn, Pharaon. Peut-être des noms que vous connaissez pas, mais ou que vous connaissez, mais on les connaît pas forcément précisément ou entièrement. Si je vous dis Sambala et Tobija, voilà. Je vous parle de Balaam également. Je vous cite Simon le magicien. Alors ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, connaissez. Diotrephe, peut-être un peu plus inconnu celui-ci. Hein. Diotrephe, mais si on le connaît. Dans le Nouveau Testament, Paul parlera de faux frères. Il le dira. Super apôtres, des gens qui se mettent au-dessus des autres. Hein. Si je vous dis, alors là c'est peut-être un petit peu plus familier, et ça va peut-être un petit peu vous déranger, mais je vous parlerai de Jean et de Jacques, des apôtres. Je vous parle de Pierre, là aussi. Si je vous parle de Judas celui qui a livré Jésus, hein. Alors, la question est la suivante, ou une affirmation, ils ont tous un point commun. Il y en a d'autres, hein, j'ai été très bref dans l'énoncé de ces noms, mais il y en a d'autres comme ça. Alors, ils ont tous un point commun, c'est à vous de voir, hein, vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, vous allez peut-être entendre la suite. Et ce point commun, quel est-il ? Alors on va regarder ça ensemble. On va user de nos doigts pour tourner les pages dans la Bible, parce que on va voir un petit peu les caractéristiques de chacun, mais il y a un dénominateur commun à tous les noms que je vous ai cités. Alors on va commencer par Caïn. Caïn, c'est le premier que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'origine, en quelque sorte, de l'histoire de la Bible, dans le livre de la Genèse, et il y a quelque chose qui le caractérisait, c'est la rivalité. Il avait un rival, prétendument rival, parce que c'était son frère. Mais en fait, c'était pas un rival. Et nous voyons que son état d'esprit, sa mentalité de Caïn, a amené chez lui un esprit de meurtre. Et on sait très bien, on n'en parle pas trop de Caïn, mais en tous les cas, il y a une chose qui le caractérise à travers l'Écriture, c'est dans Genèse chapitre 4 et verset 4, eh bien, il nous est montré finalement la vraie nature de Caïn. Et la vraie nature de Caïn, eh bien, on va le revoir brièvement parce que ça va être des textes très courts, hein. Mais toujours est-il que c'est quand même important. Tout commence, cette histoire, elle commence autour de faire plaisir à Dieu. les deux frères sont là pour plaire à Dieu en faisant des offrandes. Alors, on va pas rentrer dans la nature même des offrandes, mais en tous les cas, il nous est dit que Dieu jeta un regard sur l'offrande d'Abel et ça a été pour Dieu un parfum d'une agréable odeur. Il a donné son agrément à l'offrande d'Abel. Par contre, quand Caïn a voulu aussi présenter son offrande qui était faite tout simplement avec les fruits de la terre, alors à ce moment-là, il nous est simplement, et on va le relire, dans le chapitre 4 et le verset 5, il nous est dit que Dieu ne porte pas un regard favorable sur Caïn. Et il y a des raisons. Et sur son offrande. Alors Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dieu va se interpeller tout simplement Caïn. Il va rien dire à Abel, mais il va dire quelque chose à Caïn. Il va lui dire, mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Et Dieu va lui assurer que les choses peuvent se régler, que les choses peuvent trouver une solution. Il lui dira, mais certainement. Alors Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, si tu as une mauvaise réaction, alors à ce moment-là, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc la solution, elle était donnée déjà à l'origine. C'était une question d'écouter Dieu, c'était une question de tout simplement, eh bien, d'obtempérer à ce que Dieu avait diagnostiqué dans le fond du cœur de Caïn. Il lui donne même la solution, ben, comporte-toi bien et puis il n'y aura pas de problème. Mais on sait que les choses ne se sont pas passées de cette manière parce que il nous est dit que Caïn, à un moment ou à un autre, a rencontré son frère et il lui a adressé la parole, mais ils étaient tout seuls dans les champs et le drame est arrivé. Caïn jeta un regard, le mauvais œil. Je reviens à cela. Vous avez entendu ce que j'ai dit ce matin? Oui, mais moi je m'en suis pas aperçu. On me l'a dit ça, on m'a dit ça tout à l'heure, on m'a dit, tu sais ce que t'as dit ce matin? Oh là 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 là! Vous avez pas entendu, si? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Oh là là, c'est terrible. Je me repens avec le sac et la cendre, hein. Alors, Caïn jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà quelque chose qui aurait pu être évité, hein. C'était les dispositions finalement du cœur de Caïn. Et tout ça, à l'origine, c'était la rivalité. Pourquoi les gens sont-ils rivaux les uns des autres? Pourquoi, quand l'un a, ou qu'il y a une faveur particulière pour l'un, pourquoi l'autre, finalement, se dit « Mais moi, j'ai été oublié dans la distribution. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, c'est ce qui s'est passé, finalement. Et puis, eh bien, je peux dire que Caïn, c'était une découverte, certainement, parce que c'était le premier meurtre de l'humanité. Je peux vous dire qu'il y en a eu après. Hein. Oh là là, le sang a coulé à flot, hein. Ouais. On pourrait pas remplir tous les fleuves de la terre. Le sang a coulé et il a été saisi d'un esprit, on peut dire ça, un esprit meurtrier. Il s'est dit, bien maintenant, je vais être tout seul, je vais tuer mon frère et je serai tout seul pour avoir la bénédiction et pour avoir l'agrément de Dieu. Voilà. Donc, c'est souligné de cette manière. Il y a un grand personnage également qui ne se prenait pas pour n'importe qui, mais qui était peut-être pas n'importe quoi et qui ne faisait pas, en effet, il avait quand même sa position, c'était Pharaon. Et Pharaon, son problème, comme Caïn, mais dans un autre sens, il était le roi de l'Égypte. Et l'Égypte, à l'époque, c'était quand même un empire. Alors imaginez-vous, quelque chose de considérable. C'était l'Amérique d'aujourd'hui, si vous voulez. On peut dire, voilà, tout simplement. Avec une force militaire, avec une richesse, avec une puissance économique et tout ce que vous voudrez, avec les arts et tout cela. Et le problème de Pharaon, c'était l'endurcissement de son cœur. Pourquoi les hommes sont-ils endurcis? Pourquoi s'endurcissent-ils lorsqu'il y a quelque chose qui leur déplaît? Eh bien, il y a une réponse, c'est l'orgueil. Et cet orgueil, c'est l'orgueil de la puissance. C'est l'orgueil, nous pourrions dire, de la domination. On l'a vu dans notre étude en ce qui concerne Saül. C'était un garçon qui était très craintif, qui avait peur, il se cachait derrière les bagages, si vous connaissez un peu votre Bible, hein. Jusqu'au moment où Dieu est venu le chercher en disant « Maintenant tu vas être roi, voilà, viens, lève-toi, parce que tu vas maintenant accéder à une position élevée parmi ton peuple. » À partir du moment où il va comprendre qu'il va être roi d'Israël, il tombe fou, parce que il se dit « Moi je suis le plus grand, le plus beau, et tout le monde va m'écouter, tout le monde va plier le genou devant moi. » Et en ce qui concerne Pharaon, si vous remarquez bien dans les textes, je ne vais pas le dire, hein, mais si vous remarquez bien dans les textes, ça s'inscrit dans l'histoire où Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon et tu vas demander à ce roi de la terre, ce roi puissant de la terre, qu'il cède et qu'il laisse aller mon peuple, les Hébreux, m'adorer dans le désert. Oh là, Pharaon ne l'a pas entendu de la même oreille. Et nous nous apercevons qu'à ce moment-là, eh bien, il s'est dit, jamais je laisserai le peuple des Hébreux aller me servir dans le désert. Jamais. Tu entends Moïse? Jamais. Et Dieu a dit d'accord. Il veut pas? Eh bien, je vais lui montrer que la puissance, c'est moi qui l'ai dans le ciel et c'est pas lui. Lui, ce n'est qu'un homme. Mais moi, je suis Dieu. Et il va faire déclarer par Moïse. Il avait du courage, hein, Moïse, dire à Pharaon tout ça. Hein. Je peux vous dire que c'était quand même un courageux, hein, et un brave. Et nous voyons qu'à un moment donné, Dieu va décréter qu'il va y avoir 10 plaies en Égypte. Dans les cinq premières plaies qui vont tomber sur l'Égypte, mais comme un couperet, ça va être quelque chose d'abominable, hein, terrible. Nous voyons qu'à ce moment-là, à chaque fois, Moïse revient vers Pharaon et lui dit « Mais laisse aller mon peuple, il veut servir son Dieu dans le désert. » Et là, la réponse à chaque fois de Pharaon, il nous est dit « Pharaon endurcit son cœur. » Il n'était pas question de laisser le peuple partir. Mais vous savez, quand on endurcit son cœur, à un moment donné, c'est comme une machine qui s'emballe et on ne peut plus l'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé pour Pharaon, parce qu'après, de la 6e à la 10e plaie, alors, il y a un texte qui nous rapporte, à chaque fois, hein, il nous est dit que c'est l'éternel Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et il n'a plus rien à faire. Alors, on sait comment ça s'est terminé, tout ça. C'est que ça s'est terminé par, on peut dire, une catastrophe en Égypte. C'était véritablement quelque chose de terrible. L'armée, la première armée du monde, la plus grande force militaire qui existait à l'époque, a été complètement engloutie dans la mer Rouge. Parce que, à force de s'endurcir, eh bien, comme on le disait, l'homme est livré à ses propres penchants, à sa propre sagesse. Et comme il n'a pas voulu céder, à un moment donné, il ne pouvait plus s'arrêter. Et ça a été une véritable catastrophe. Donc l'endurcissement. On a vu que dans le premier cas, c'était la rivalité, la jalousie. Voilà. Le deuxième cas, eh bien, c'est l'endurcissement. En ce qui concerne Sambala et Tobija, personnages qui apparaissent quand même seulement dans un livre, hein, dans la Bible, nous avons cette histoire qui nous est rapportée dans le livre de Néhémie. Alors, dans le livre de Néhémie, je vais vous dire simplement le petit texte, hein. Néhémie chapitre 4, verset 1er, il nous est dit que Sambala apprit que les Juifs rebâtissaient la muraille de Jérusalem, et il fut en colère et très irrité, à tel point qu'il se moqua d'eux, et il a dit à tous ceux qui étaient autour, à quoi travaillent ces Juifs impuissants, c'est-à-dire qu'ils s'est livrés à toutes sortes de dénigration, ou de comment, de dénigrement, pardon. Hein. Alors, donc, toutes sortes de choses qui étaient pas très, très, très belles, et nous apercevons que il fait la caractéristique d'être un ennemi. Il s'élève, Tobija et Sambala, comme un ennemi de l'œuvre de Dieu. C'est un opposant. Ce que je retiendrai, c'est l'opposition. On peut dire que le premier était animé d'un esprit de rivalité, le deuxième a été animé d'un endurcissement, le troisième, c'est un esprit d'opposition. Il y a des gens qui s'opposent à tout, hein. À tel point que Paul dira que dans la fin des temps, eh bien, les hommes seront des fils de rébellion. Voilà. Vous faites le bien, vous faites n'importe quoi, tout est contestable par ces gens-là. Et il y en a qui transparaissent un petit peu, qui apparaissent dans la Bible, et on s'aperçoit que ce sont des gens qui font beaucoup de dégâts, hein. Donc, on s'aperçoit qu'il y a quand même derrière les dispositions naturelles du cœur humain, une mentalité qui a été façonnée et tout ça, mais en sous-main, il y a quelque chose de... À tel point que dans les derniers temps, le livre de l'Apocalypse, nous dirons que les hommes seront tellement révoltés contre Dieu, le monde deviendra véritablement antichrist et antichrétien. C'est l'histoire de ces deux personnages qui se sont opposés à Néhémie, qui avait été envoyé par Dieu pour reconstruire, après la déportation de Babylone, ou en Assyrie, qui a été véritablement l'homme providentiel pour finalement, eh bien, remettre le peuple de Dieu, la gloire de Dieu dans la ville de Jérusalem. Alors, Il y a un autre personnage qui apparaît, il s'appelle Balaam. Balaam, il a une réputation assez étrange. C'est que Dieu va se servir d'un homme qui est assis entre deux chaises. Voilà, Dieu lui dit maintenant, eh bien, quand les Hébreux, à la sortie d'Égypte, sont arrivés dans les plaines de Moab, dans cette région, Dieu lui a dit, eh bien, tout simplement, « Moi, je te demande, toi, Balaam, qui était un homme double, hein, c'était, tu vas aller vers le peuple d'Israël et tu vas bénir mon peuple. Je te le dis, tu vas le bénir en mon nom. » Il y avait des ennemis qui voulaient s'opposer à la venue, à la rentrée d'Israël, enfin des Hébreux, dans le pays de Canaan. Hein, Balak, un roi de Péor, ou je ne sais quoi exactement. Et lui, il est venu aussi en même temps que Dieu disait, tu vas bénir mon peuple, parce que c'est mon peuple, il est béni, c'est le peuple élu. Le roi, là, Péor, qui est arrivé, est venu voir Balaam en disant, non, 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 surtout, tu ne les bénis pas, tu le maudis. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, plein d'hésitations, comme ça, il ne sait plus où il en est rendu, ce fameux Balaam, et il va se laisser emporter par l'argent que l'autre va lui donner, vous connaissez? Et ça va se terminer très mal. Tout ça, ça va se terminer dans un gabegie terrible, parce qu'à un moment donné, eh bien, les fils d'Israël dans les plaines de Moab vont se livrer à une débauche pas possible. Et on s'aperçoit que, en quelque sorte, c'était une véritable désobéissance pour Balaam, parce que Dieu lui avait dit, ben maintenant, tu vas bénir et tu ne vas pas maudire. Lui, il a fait exactement le contraire, il a maudit au lieu de bénir. C'était une désobéissance, et puis il y avait également une raison secondaire, qui était la cupidité, parce qu'il attendait à recevoir de l'argent. Il pouvait toujours attendre longtemps de la part de Dieu, parce que Dieu ne donne pas d'argent. Hein, il y en a qui pensent comme ça, vous savez, l'évangile de la prospérité. Seigneur, je te bénis, mais tu me bénis, tu me donnes beaucoup d'argent, tu me donnes... Bon, c'est pas biblique, hein. C'est même pas évangélique, c'est rien du tout. Hein. C'est une illusion. Et on sait que dans cette situation, c'est ce qui s'est passé. On en arrive dans le Nouveau Testament maintenant, Ananias et Saphira. Alors vous savez que c'était un couple. Oui. Ils étaient très unis d'ailleurs. Pas forcément dans les bonnes choses, hein. Mais ils avaient vendu un champ. Ils avaient fait de l'argent avec ce champ. Et il s'était dit, bien voilà, on va le donner, parce qu'il y avait tout un mouvement à ce moment-là, hein, qui faisait que les gens qui avaient quelques biens vendaient au profit de l'Église pour nourrir les pauvres gens qui étaient les nouveaux chrétiens, qui avaient tout laissé, tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Et il s'était dit, bien voilà, on a vendu ce champ tel argent, et on va en donner, vous allez regarder, hein, on va en donner un petit peu là à l'Église naissante de Jérusalem. Et ils avaient comploté de n'en donner qu'une partie. Mais ils pouvaient garder tout, hein. Personne ne les obligeait. S'ils avaient voulu, ils pouvaient garder tout. Mais ils ont fait une telle dissimulation devant les apôtres, Pierre en particulier, qu'ils avaient manigancé pour tromper tout le monde. Et on sait que dans cette situation, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que derrière, il y a quand même des choses qui sont dites, hein, et particulièrement dans leur attitude de mensonge, on peut dire ça. Et j'ai ce petit texte qui est devant mes yeux, au chapitre 5 et au verset 3. Il nous est dit simplement ceci. Voilà, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» S'il avait été vendu, et parce qu'il était vendu, tu pouvais tout garder, hein, personne ne te demandait de... Mais la manière dont tu as fait, Ananias, c'est que tu as combiné quelque chose qui était de la... C'était pervers, en quelque sorte. Tu n'avais pas besoin... finalement, de faire tout ce trafic, ça ne servait à rien. Et il est dit un peu plus loin, mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et vous savez ce qui lui est arrivé, le pauvre? Et comme il n'y avait pas de défibrillateur à côté, ben il est mort d'une crise cardiaque. Non, mais c'est vrai. On dirait ça aujourd'hui, hein. J'emploie un langage d'aujourd'hui, mais c'est ça, hein. Ça lui est tombé dessus, il a pas vu le reste de la journée, hein. Alors bon, je vous parle pas de sa femme parce que c'était exactement la même chose, c'est ce qui lui est arrivé, hein. Enfin, ils sont morts tous les deux ensemble, c'est une consolation. Hein. Alors, c'était le mensonge. Comment as-tu pu mentir au Saint-Esprit? C'est grave, hein? Parce que quand on sait que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, c'est fort, hein? Et comment as-tu pu dissimuler les choses alors que finalement, les choses auraient pu être faites d'une autre manière? Eh oui, ils ont perdu la vie, hein, ces deux personnages. Il nous a dit, mais comment Satan a-t-il pu véritablement détourner ton cœur? Ah, c'est quelque chose, hein. Donc ça, c'est encore un point. Et puis, il y a encore un autre personnage haut en couleur que l'on appelle Simon le pharisien. Vous savez? Dont les œuvres ont été après appelées dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du monde la simonie. C'est-à-dire le trafic des choses saintes. Des choses qui appartiennent finalement, eh bien, à la religion. Le trafic. Ça court encore aussi, hein, le trafic. Les gens qui vendent encore telle chose, hein, parce que ça a été béni, etc. C'est de la simonie, tout simplement. Et en ce qui concerne Simon le magicien, c'est pareil, il y a encore quelque chose qui nous est mentionné en ce qui le concerne, parce que il va tellement faire son cinéma, qu'il va être dévoilé par Pierre. Et Pierre va lui dire à un moment donné, au verset, parce qu'il voulait acheter, le don du Saint-Esprit à prix d'argent. Voilà, c'est ça, hein, dans le texte. Et Pierre lui dira tout simplement cette parole, repens-toi donc de ta méchanceté. Là, on voit que c'est le mal qui le caractérise, c'est la méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Et il lui dira la suite, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Un fiel amer. Les gens qui sont fielleux. Voilà. Des gens qui ont une telle charge de méchanceté dans leur cœur. Eh bien, ça, c'est la caractéristique encore de ce personnage qui était, cupide, parce qu'il pensait qu'il pouvait se servir des choses de Dieu, des choses saintes de Dieu, pour se faire de l'argent. Encore un autre exemple. Servir de maître à la foi. Parce qu'on est toujours dans la même ligne, hein, je ne vous l'ai pas rappelé, mais que ce soit Pharaon, lui, c'était lui le maître, alors donc, pas de problème, mais il était le seul maître unique. Mais Caïn, c'était pour ça, il voulait servir Dieu, mais d'un autre côté, voilà, il y en a un qui le gênait. Sambala et Tobija, eux, ils voulaient aussi, que Néhémie, qui le dérangeait, disparaisse. Balaam, c'est la même chose. Ananias et Saphira, Simon le magicien. Diotref, ce personnage, qui apparaît une fois dans l'histoire évangélique, alors nous avons ça dans la plus grande de toutes les épîtres de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la troisième à Pierre. Il n'y a même pas de chapitre. C'est simplement quelques versets. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce brave Diotref? Alors, je vais vous relire un petit peu. Il nous a dit que... Voilà, je lis un peu. « Mais Diotref, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » C'est-à-dire que quand l'apôtre Jean a voulu aller dans l'église chrétienne où était Diotref, eh bien, il lui a dit « Non, on ne te prend pas, tu ne viens pas chez nous, hein, ça c'est chez moi. » C'était plutôt chez lui. Hein. « C'est pourquoi, si je vais, je vous rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. » Voilà encore un personnage qui a de la personnalité, enfin, façon de parler, qui a du tempérament. Imaginez-vous, ici, modeste pasteur que je suis, je me mets à la porte d'entrée en disant « toi tu rentres pas, hein. » Ouais, moi, mon cœur, il est grand ouvert, je voudrais bien que tout le monde rentre, hein. Eh oui, ben voilà ce que faisait Diotref. Vous rendez compte? Il s'était mis à la porte comme ça, et c'est lui qui faisait la circulation. Vous rendez compte? C'est terrible, hein. C'était pourtant l'église, hein. L'église de Jésus-Christ, mais après, on devait dire c'est l'église de Diotref. Elle n'a plus rien de chrétien quand c'est comme ça, hein. Être le premier partout. Vous savez, ceux qui jouent des coudes, et qui essaient de déranger les autres, de bousculer les autres, et même d'éliminer les autres. Parce qu'il se dit, c'est ma place, ça peut pas être autrement. Alors, mais vous savez, derrière, quand on regarde ça, il y avait quelque chose certainement qui occupait son cœur, c'était la frustration. C'était un homme frustré, parce que il aurait voulu tellement être le chef de tout, tellement avoir la haute main sur toutes les affaires de l'Église de son temps, tellement ceci et cela. Il y en a encore aujourd'hui, hein. Nous, on en a connu des gens comme ça, hein. Même dans les églises, même dans nos églises, qui voulait être toujours à la première place, à la porte, mais du bon côté. Et voilà, c'est ça. Et c'est quand même assez étonnant, tout ce genre de personnalité, être le premier partout. Et quand il ne pouvait pas être le premier partout, eh bien, il évacuait. Voilà, il faisait le nettoyage. Alors, à ce tarif-là, il reste plus grand monde. Hein. Ça, c'est sûr. Plus que tout seul, mais c'est peut-être ce qu'il voulait. Hein. Il nous est parlé, mais d'une manière très générale, généraliste, des faux frères. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit sur les faux frères? Dans Philippiens plutôt, parce que ça n'existe pas autrement. Philippiens, il nous est parlé au chapitre 1er, de cette attitude au chapitre 15 et 17. Alors, 15 et 17, voilà. Il nous est dit quelques-uns, donc c'est très neutre, hein. Il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec des pensées de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Voilà. Ça, c'est encore un autre type de personnage. Bon, ça se ressemble, hein, de toute façon, mais... Où il est question, finalement, de gens qui sont animés d'envie. Ouais, c'est l'envie qui les dévore. Et d'un esprit de dispute. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Quand on sert Jésus, il ne peut pas y avoir un esprit de dispute, il ne peut y avoir qu'un esprit d'amour. Un esprit de bienfaisance et un esprit de bienséance. C'est pas possible autrement. Si je vous parle de Jean, l'apôtre Jean, qui était quand même l'apôtre de l'amour, appelé l'apôtre de l'amour, ben quelquefois il a eu des poussées de fièvre, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'a pas toujours été l'apôtre de l'amour, parce qu'un jour Jésus allait, je crois, de la Galilée et pour aller à Jérusalem, et il est arrivé dans un village qui était un village de Samaritains. Et puis Jésus avait envoyé quelques-uns de ses disciples en disant, ben, pour cette nuit, trouvez-moi une petite maison pour que nous puissions, enfin une petite maison, il y avait quand même 13 personnes qui arrivaient. Mais toujours est-il que trouvez-moi un endroit pour que nous puissions nous reposer pour continuer demain matin la route. Alors, il y a Jean qui va dire à Jésus, et parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été les voir, et les Samaritains ont dit, nous ne voulons pas de Juifs dans notre village, hein, pas question, donc vous passez votre route, on ne veut pas entendre parler de vous. Jean, il a pris les choses vraiment de très haut, il est allé voir Jésus en disant, écoute Seigneur, demande que le feu du ciel leur tombe sur la tête. C'est très chaleureux, c'est du feu. Mais quand même, c'est assez quand même bizarre que notre apôtre de l'amour demande ceci et cela. Jésus va lui dire, écoute, calme-toi, hein, parce que bon, voilà, si on n'est pas là ce soir, on sera là autre part, hein, tout simplement, on ira autre part. Hein. Mais c'est pour vous dire, quelquefois il y a un esprit que nous pourrions qualifier de zèle sans intelligence. Ouais. Où là, Dieu ne nous demande pas certaines choses, et que nous voulons faire, soi-disant pour la gloire de Dieu. Et voilà. Ce qui était quand même une caractéristique des pharisiens du temps de Jésus. Hein. Ils ont un zèle sans intelligence, sans savoir réellement que tout cela, eh bien, c'est animé par quelque chose qui n'est pas bon derrière. Donc ça, c'est Jean. On reprend Jean et on y met Jacques à côté. Un jour, Jean et Jacques viennent voir Jésus, discrètement, mais ça, c'est su de tout le monde, parce qu'on le sait encore. Dis donc, Jésus, quand tu arriveras dans ton royaume, il y a une chose qu'on voudrait. On aimerait bien, Jean, Jacques, tous les deux, on aimerait bien avoir la première place, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus leur dira, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ben oui, c'est encore une des caractéristiques, finalement, eh bien, de cette disposition, soif de supériorité, c'est de l'orgueil, hein. Et c'est pas un orgueil comme Pharaon, c'est un orgueil spirituel. C'est-à-dire qu'il prend des allures de bien, vous comprenez? En disant, mais tu seras content d'avoir l'un et l'autre à ta droite et l'autre à ta gauche. Tu sais, dans notre compagnie, on va pas s'ennuyer, hein. Eh oui. Parce qu'il peut y avoir un orgueil spirituel dans tout ça. Ouais. Le plus près de toi, Jésus. Voilà. Mais il y en avait d'autres aussi derrière qui peut-être auraient aimé la même chose, hein. Et Jésus va leur donner une leçon. Il va leur dire, écoutez, hein, celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, qui commence à être le petit. Hein. Ouais, parce que c'est la règle. Hein. Et si vous voulez être maître, bah, commencez par être serviteur. Là, vous allez comprendre, naturellement. Si je vous parle de Pierre, Pierre, il est bien. C'est vrai qu'il est devenu quand même un homme considérable dans l'histoire de l'Église primitive. Jésus lui dit, écoute, Pierre, j'ai quelque chose à te dire, mais il le disait aussi à tous les autres. Pierre, écoute bien, j'ai quelque chose à te dire. C'est que très bientôt, les hommes vont me prendre, ils vont me saisir, ils vont me maltraiter, ils vont me mettre en prison, ils vont me persécuter, et ils vont me mettre à mort. Pierre, il entend ça. Il s'est dit, mais Seigneur, il s'explique en tous les cas par une exclamation de dégoût en quelque sorte. Ça voulait dire, mais Jésus, tu te trompes, c'est pas possible. Et là, on a quand même une pensée qui nous est exprimée, on va justement lire dans l'évangile de Matthieu, parce que c'est quand même la réaction, et la réaction de Jésus particulièrement aussi. Alors, dans le chapitre 16 et au verset 23, le problème nous est formulé de cette manière. Donc Pierre se mit à reprendre Jésus et lui dire « Mais à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas avec une telle assurance. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. » Pierre, il a dû être complètement estourbi parce que c'était pas Satan, Pierre, c'était Pierre. Mais néanmoins, la suggestion qui était instillée dans l'esprit, qui avait été infiltrée dans l'esprit de Pierre, c'était que Jésus ne meure pas à la croix du calvaire, qu'il ne fasse pas le salut des hommes et que son sacrifice soit nul et non avenu, qu'il ne réussisse pas en quelque sorte. Et écoutez, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Bonne disposition, mais c'était pas éclairé, c'était pas spirituel. Mauvaise pensée qui nous est qualifiée de scandaleuse. L'animation qui est derrière. J'en arrive, avant de terminer, à Judas. Et Judas, c'est quelque chose. Parce que quand vous lisez, par exemple, dans Luc, chapitre 23, le terme est très bref, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et au verset 3, 23, verset 3. Alors, si je ne me trompe, il est dit ceci. Voilà. Non, je me suis trompé de référence, mais c'est pas grave. C'était tellement court que je m'en souviens encore. Il nous est dit que après le repas de Gethsémané, quand Jésus a dévoilé Judas, celui qui met la main avec moi dans le plat, c'est celui qui me livre, il nous est dit qu'à ce moment-là, Satan entra dans Judas. C'est écrit, hein? Oui, ça doit être 22, c'est ça, je me suis trompé de... Eh bien, j'avais marqué 22 dans ma référence, mais j'ai dit 23. Je suis très, très fatigué, oui. Oui, c'est ça. Oui, ben voilà, ça peut être comme ça. Vous m'excusez, hein, mais... Je vous dirai bientôt, je vais faire une cure de sommeil, alors j'en ai vraiment besoin. Alors, nous voyons que cet homme, par les dispositions qui sont les siennes, va laisser toute la place au diable pour faire le crime le plus odieux, le plus abominable et le plus monstrueux qui n'ait jamais existé. Voilà, tout simplement. Alors, pour résumer un peu tout ça, je dirais que, et on reste sur la première pensée, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit on sert complètement, ou on sert rien du tout, ou on ne fait rien du tout. Et c'est pour ça que, dans le monde, et quand il est parlé de l'évangile, et de l'appel de Christ qu'il adresse aux hommes, c'est tout ou rien. On donne sa vie, on donne son cœur, et Jésus l'exprime d'une manière très claire, il donne les conditions pour le suivre, on accepte ou on n'accepte pas. On répond par l'affirmative ou on répond par le négatif, en disant « moi ça ne me concerne pas, je ne peux pas faire ça ». Mais une chose qui est certaine, c'est que, à travers le message formidable de la conversion et de la nouvelle naissance, c'est que Dieu est capable de changer notre cœur. Et là, ce qui était impossible pour nous devient possible. D'accepter, de concevoir, de consentir, et même de donner notre vie. Et c'est pour ça que Jésus dira, mais on ne peut servir deux maîtres en même temps. C'est pas possible. Soit on va aimer l'un, et on va haïr l'autre, et puis vice versa. Mais quand on veut, parce que ça on pourrait dire que c'est un exercice d'équilibriste, quand on veut, finalement avoir les deux en même temps, ça ne marche jamais. C'est pas possible. Et c'est vrai que, je dois le dire, et c'est quand même une réalité, le monde de la religion a réussi à faire ce grand écart, faire croire aux gens qu'ils peuvent servir Dieu, tout en étant consacrés à Dieu, dans toutes sortes d'aspects, leur donner l'illusion que Christ est bien là, voilà, c'est leur sauveur, et ceci et cela, tout en pouvant même, dans d'autres situations, servir l'ennemi de Christ. Servir les intérêts contraires à Christ. Et ça ne donne jamais rien de bon. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, tout cela s'est mélangé, livré avec le froment. Ça ne peut pas, finalement, donner quelque chose de positif. Et quand on voit tous ces personnages qui ont défilé devant nous à travers quelques citations, on s'aperçoit que leur fin aux uns, la fin des uns et des autres a été véritablement quelque chose de catastrophique. Bon, mis à part Pierre. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Mis à part Jean, Jacques, parce que véritablement ils ont saisi. Mais dans ce que j'ai pu citer, apparemment ce sont les trois. Tous les autres ont mal fini. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans notre cœur qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Et il y a des choses qui peuvent appartenir à la nature humaine qu'il faut peut-être avec le temps, mais il faut à un moment ou à un autre que ça soit évacué. C'est pas possible de garder finalement livré dans notre cœur. Soit nous consentons à ce que Dieu, par le Saint-Esprit, nous nettoie complètement et totalement, et là, à ce moment-là, nous allons avoir un cœur nouveau, on en parlait ce matin, nous allons avoir une mentalité nouvelle, et nous allons prendre position qui nous allons servir. Vous savez, Josué le dira à un moment donné, quand il voyait le peuple d'Israël sorti d'Égypte, et qui commençait à prendre des tendances de dérive, eh bien il a affirmé devant tout le monde, il dira « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». C'était clair, net et précis. Et je crois que dans le positionnement de la foi, il faut que ça soit de même, net, clair et précis. Nous voulons servir Jésus. Nous voulons qu'il ait la primauté, nous en parlions dernièrement encore. Nous voulons qu'il ait la prééminence. Autrement, c'est pas possible de faire les choses. C'est absolument pas possible. Ça s'appelle la versatilité. C'est-à-dire que on dit oui d'un côté, on dit non de l'autre. On donne d'un côté, on reprend. Comme on le dit souvent, celui qui retourne sa veste. Hein. C'est très mal vu, hein. Oui. Dès qu'on voit quelque chose qui peut être plus intéressant, eh bien voilà, on passe dans le camp de l'ennemi et ça, c'est pas possible. Ça s'appelle de l'inconstance. Et ça vient très souvent d'un cœur partagé, pour différentes raisons, par l'orgueil, par la vanité, on en parlait, hein, par je ne sais quelle cupidité, pour une image de supériorité sur les autres, d'autorité, toutes sortes de choses, ça ne peut pas fonctionner. Et je termine par simplement deux versets. Dans Chroniques, Livre des Chroniques, c'est un tout petit texte qui nous montre à l'évidence, au chapitre 16, et au verset 9, il nous est dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Voilà. Alors si nous voulons véritablement que Dieu agisse dans notre vie, que Dieu fasse de grandes choses dans notre vie, nous ne pouvons pas être assis entre deux chaises. Quel inconfort d'être assis entre deux chaises, hein. C'est pas possible, on peut pas être dans une bonne position. Non, non, c'est pas possible, il peut pas y avoir de neutralité. Et j'aime bien ce texte. Parce qu'il est là pour soutenir. Et quelquefois, nous nous sentons combien si faibles et si petits pour répondre à l'appel de Dieu et faire ce qu'il nous demande. Mais il est là, notre soutien. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et puis, un dernier exemple, c'est une exhortation en quelque sorte, une exhortation, un encouragement. Quand dans les Philippiens, il est dit cette parole, « Au reste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et c'est Dieu qui change nos pensées. Et pourquoi nos pensées? Parce qu'il y a un verset qui est au-dessus de celui-ci, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute votre intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ça ce que le Seigneur veut nous montrer. Alors on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on va aimer l'un et mépriser l'autre, et dans le sens inverse. Il faut que nous prenions position. C'est une nécessité absolue, parce qu'on ne peut pas composer dans ce qui est incomposable. On ne peut pas négocier dans ce qui n'est pas négociable. C'est l'un ou l'autre. Dieu soutient le cœur de ceux qui sont tout entiers, tout simplement à lui. Alors, j'ai fait un petit échantillonnage de personnages qui, eux, n'ont pas su faire ça. Mais je voudrais quand même vous dire que vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'était des hommes. Ils étaient loin d'être des anges, encore moins d'être parfaits. Mais une chose qui est certaine, c'est que ils ont affirmé haut et fort qu'ils avaient choisi finalement Dieu. Israël, c'était là la position des hommes que nous connaissons sous le nom des prophètes et puis des hommes de foi. Dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est beaucoup plus généralisé. Parce que c'est le monde entier qui est appelé à choisir. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi, que Dieu nous donne sa grâce, mais une chose qui est certaine, c'est que le diable ne peut réussir à faire les choses que quand on lui laisse des brèches, quand on lui laisse des éléments. Ça, c'est aussi à préciser. Mais si on dit au Seigneur, eh bien, que mes pensées, que mon cœur, que ma conscience, que tout cela, eh bien, soit véritablement entre tes mains et c'est toi qui vas me transformer, alors à ce moment-là, le Seigneur va le faire, parce qu'il est saint, et il veut que nous soyons aussi, eh bien, de la même nature, que nous soyons à sa ressemblance. Alors nous avons un modèle, il s'appelle Jésus, et nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, et te remercier pour ta parole encore cet après-midi. Oui, Seigneur, nous croyons que il y a, en effet, Seigneur, tant de choses à apprendre. Et, Seigneur, cet apprentissage, tu nous le donnes tout simplement à travers des méditations, des réflexions, à travers ta parole que nous avons besoin de comprendre, non pas, Seigneur, seulement au niveau de notre, dimension cérébrale et intellectuelle, parce que c'est une chose, mais nous avons besoin de le comprendre avec le cœur. Et nous croyons que ce qui est vraiment le moteur de l'homme, c'est son cœur. Et si le cœur est occupé par des choses qui sont à la ressemblance de ce que tu es, de ce que tu demandes à l'homme, alors à ce moment-là, eh bien, nous optons, c'est vrai, avec enthousiasme, avec ferveur et avec amour pour les choses que l'on qualifie de bonnes, de bien, de lumière, de vérité. Mais si quelque part, eh bien, en effet, nous essayons de faire le grand écart en se donnant l'illusion de connaître Dieu, et puis d'un autre côté, en effet, eh bien, ce sont nos intérêts, c'est notre sens mauvais qui apparaît, un cœur mauvais avec tout ce que cela, eh bien, peut comporter de toute cette cohorte de choses qui ne te plaisent pas. Alors à ce moment-là, ce n'est pas possible. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier de ce que tu nous donnes. Tout simplement à la fois la connaissance des choses et la force de les appliquer, la force de les mettre en pratique. Et nous te bénissons et nous te remercions. Oui, nous te bénissons, Seigneur, parce que, en effet, tout cela, Seigneur, est devant nous. C'est à nous de prendre position, c'est à nous de choisir. Et nous croyons, Père éternel, que tu es celui qui soutient, celui ou celle dont le cœur est tout entier à toi. Alors merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour l'illumination ou la révélation, Seigneur, de ta volonté, de ta pensée. Et ainsi, Seigneur, donne-nous la force de pouvoir vivre tout cela. Merci, notre Dieu.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.